30 minutes d'infos choisies
chaque vendredi sur Radio Galère 88.4.
Le monde tel qu'on le connaissait s'écroule. Ce n'est pas une mauvaise nouvelle.
Et bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous, vous êtes bien sur Radio Galère, c'est le 88.4 dans ton poste, et on est vendredi, il est 12h30, on a commencé à la seconde près pour ces infos choisies, une demi-heure d'infos choisies, comme tous les vendredis à 12h30, on est en direct sur Radio Galère et sur Aioli Radio à Avignon, voilà, en direct également et en rediffusion le lundi matin à 7h30 sur les ondes de Galère. Vous nous écoutez également en podcast sur le site radiogalère.org. Toutes nos émissions sont en ligne, n'hésitez pas à y faire un petit tour. Et cet été, eh ben, on a un programme un petit peu allégé, mais aujourd'hui on a quand même pas mal d'infos à vous faire part. Et on va commencer par envoyer des pensées, de la force, du soutien, tout ce qu'on peut aux 38 personnes et à leurs familles, surtout, qui sont mortes dans les terribles incendies en Algérie ces derniers jours. Ça s'est passé dans la région de El Tarf, surtout, ainsi qu'à Soukaras, Sétif et Guelma. Toutes ces régions sont dans le nord-est du pays, tout proche de la frontière tunisienne. Donc voilà, nos pensées, elles vont surtout aux familles. Il y a eu beaucoup de personnes qui ont été blessées, énormément de dégâts matériels aussi. Donc plein de force, plein de courage pour la reconstruction, en espérant que les moyens de lutte contre les incendies vont arriver, ou en tout cas vont se mettre en place en Algérie. Et à Marseille, il y a une autre communauté qui est aussi très présente et qui est très touchée aujourd'hui et hier, c'est la communauté corse. Et pas à cause de cette énorme tempête qui a eu lieu hier matin, qui a fait 5 morts, 5 personnes décédées sur l'île, mortes, et des dégâts considérables. Donc courage à toutes et à tous face à ces phénomènes climatiques, environnementaux qui sont terribles et qui font des dégâts. Et en général, c'est toujours les personnes les moins bien loties qui en payent le prix. Donc des grosses pensées à toutes celles et ceux qui sont dans ces galères-là. Et puis nos pensées, elles se dirigent aussi vers les familles des deux personnes qui ont été visés par des tirs de policiers à Vénissieux, dans la banlieue lyonnaise, cette nuit. Ça s'est passé vers minuit, donc la nuit passée, entre le jeudi 18 et le vendredi 19 août. Et l'histoire se répète encore et toujours. Pour l'instant, on a très peu de détails. Il y a une personne qui est morte et une personne qui est en état de mort cérébrale. L'histoire se répète comme toujours, on a très peu de détails, ça résonne tellement fort quasiment un an jour pour jour après la mort de Souhel El Khalfaoui dans le quartier de la Belle de Mai à Marseille il y a un an, c'était le 4 août 2021. Et donc à Vénissieux la nuit dernière, pareil, un véhicule qui est à l'arrêt, une patrouille de flics qui veut le contrôler. Le conducteur qui fait une marche arrière, puis une marche avant, renverse un policier en le blessant légèrement à la jambe. Selon l'AFP, les flics tirent et ils tuent. Le passager est décédé sur le coup. Le conducteur est aujourd'hui, quelques heures donc après les faits, en état de mort cérébrale. Autant dire que ces heures sont comptées. Un blessé léger selon l'AFP, donc le flic en question, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut souvent à peu près rien dire. En tout cas, c'est des mots qui sont employés pour mettre en place déjà quelques heures après les faits, un environnement qui laisse planer le doute de la légitime défense. Alors, on a Comme je le disais, on a très peu de détails, mais laissez-moi deviner un petit peu. Je parie que les personnes dans la voiture sont soit arabes, soit noires, et que c'est pour cette raison que les flics ont voulu les contrôler. C'est probablement aussi pour cette raison que les flics se sont dit qu'il fallait tirer au moindre écart. On nous dit que les deux flics qui ont ouvert le feu sont en garde à vue. Bah, moi, je parie qu'ils sont dans la même cellule, qu'ils peuvent se mettre d'accord sur la version des faits. D'ailleurs, puisque le flic qui a été blessé est un des flics qui a tiré et qui est en garde à vue, c'est que les toubibs de la garde à vue ont estimé son état compatible avec la garde à vue et que sa blessure est probablement à peu près inexistante. Je parie que cette version des faits que je viens de vous donner, qui a été relayée par l'AFP et par les médias de masse, provient des flics eux-mêmes ou de leur syndicat. Et après vérification, bah, c'est bien la version des flics qui est relayée. Je parie que les flics assassins vont être libérés dans la journée de leur garde à vue et qu'elles reprendront du service après quelques jours d'ITT dû au choc psychologique probablement. Je parie que les témoins, s'il y en a, ne seront pas entendus. Je parie que les vidéos, s'il y en a, ne seront pas visionnées par les GPN ou seront effacées par accident ou seront perdues, comme dans l'affaire de Souhel, on l'a entendu la semaine dernière. Je me demande d'ailleurs si les familles des deux personnes visées par les flics sont déjà au courant ou si elles attendent des nouvelles en ce moment même devant le commissariat de Vénissieux ou ailleurs. Et puis je parie que ces familles, si elles en ont le courage, vont essayer de faire éclater la vérité de cette affaire et qu'elles seront intimidées, qu'ils seront attaquées pour diffamation, peut-être même placées en garde à vue pour des raisons obscures comme les membres de la famille d'Adama Traoré. Je parie que les flics et leurs syndicats de merde vont tout faire pour faire passer les deux personnes en question pour des personnes délinquantes, ressortant deux barrettes de shit de leur poche ou une lointaine histoire de casier judiciaire pas vierge pour justifier leur assassinat, qui est injustifiable. Et je parie que l'enquête va traîner, que d'ici 2 ou 3 jours, plus aucun média n'en parlera, que dans quelques semaines, il y aura un autre meurtre policier, que la légitime défense va être invoquée alors que les deux personnes tuées sont pas armées, que la légitime défense va même être retenue et que l'affaire sera probablement classée sans suite d'ici 1 an, 2 ans, 3 ans, quand tout le monde sera épuisé de se battre et que s'il y a appel, il y a, et ben il sera classé également sans suite. Il y en a vraiment trop marre de ces crimes policiers, il y en a marre, pareil, en juin, à Paris, refus de contrôle routier, assassinat sans sommation, pareil pour Souhel, et un an après, on a un père désespéré qui tente de se faire entendre en versant de la peinture sur le Comico de Noailles, et des flics assassins encore en service et encore en liberté. Justice et vérité pour Souhel, justice et vérité pour tous les crimes policiers. On s'écoute un petit peu de musique et on revient après sur l'actualité et l'histoire aussi d'ailleurs. Thank you.
you're gonna rise, rise up singing. You're gonna spread your wings, shout and take to the sky. Nothing's going to harm you now. Na 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 na
Les infos choisies, vendredi,
les
midi
30. Les infos choisies, vendredi,
les
midi 30.
Les infos choisies, vendredi, midi 30.
Les collectifs de sans-papiers appellent à marcher à Paris. C'est demain que ça se passera, le samedi 20 août à 15h, depuis la porte de Clignancourt. C'est contre le racisme, contre le fascisme. Il faut, nous dit-on, reprendre le chemin de Saint-Bernard. Saint-Bernard, de quoi s'agit-il ? Eh ben, en fait, il s'agit du 26e anniversaire de l'expulsion de l'église de Saint-Bernard. Donc, c'était le 23 août 96. Un peu de contexte, c'était quelques semaines après un grand mouvement de grève contre la réforme des retraites de décembre 95. Tiens, l'histoire se répète ici encore. Et de février à août 96, à Paris, des centaines d'étrangers clandestins, appelés clandestins à l'époque encore, sortent en pleine lumière, occupent des églises, des gymnases, un entrepôt de la SNCF pour obtenir leurs papiers dans un mouvement de protestation collective. Ils et elles seront expulsés violemment d'une église occupée, l'église Saint-Bernard, où ils étaient plus de 200 à l'occuper depuis des semaines. Donc expulsion par la police le 23 août 96. Mais celles et ceux qui se sont renommés sans papier lancent donc un mouvement de collectif sur tout le territoire, soutenu par des centaines de milliers de personnes. On écoute une archive quand je vais remettre la main dessus. Voilà, elle est là.
Madame, Monsieur, bonsoir. Au lendemain de l'intervention d'Alain Juppé, les forces de l'ordre sont donc intervenues ce matin à l'église Saint-Bernard. Environ un millier de gendarmes mobiles et de CRS qui ont forcé vers 8h moins le quart la porte de l'église Saint-Bernard pour s'emparer des sans-papiers. À leur 50e jour de grève de la faim, les grévistes ont été évacués vers des hôpitaux militaires. Les autres ont pris la direction du centre de rétention de Vincennes où leur cas devrait être examiné. Le récit de cette matinée musclée, Pascal Doucet-Bon et Valérie Fourniou.
C'était Antenne 2 le 23 août 96.
Jusqu'au bout, ils tentent de faire barrage à l'assaut des forces de l'ordre. Eux, qui campent avec les réfugiés depuis des semaines, font un rempart de leur corps. Esquivent les coups. Gênent leur progression. Mais les gendarmes mobiles arriveront à leur fin en 20 minutes. Les portes de l'église mettront moins de temps à résister.
Pendant ce temps, à l'intérieur, une barricade de chaises est érigée à la hâte. Elle ne tiendra que quelques minutes. 8h15, les gendarmes mobiles entrent simultanément par les deux portes. Le curé doit interrompre la célébration qu'il dirigeait.
Qu'est-ce que vous ressentez là actuellement ?
Je ne sais pas quoi dire, j'ai envie de pleurer. J'ai un peu honte pour nous.
L'issue est désormais certaine, alors les nerfs lâchent. Aboubacar Diop, délégué des familles, doit calmer ses troupes. Mais comme les autres, il refuse de bouger, alors l'évacuation prend un tour plus musclé.
À moins de 100 mètres de là, des Parisiens, d'autres venus de plus loin et des habitants du quartier Accour tentent de rejoindre ceux qui sont à l'intérieur. Et les gendarmes mobiles lancent des gaz lacrymogènes pour les repousser. Au pied de l'église, ceux qui ont dormi là et qui résistent encore aux forces de l'ordre leur font signe de venir. Pendant ce temps, l'évacuation des 10 grévistes de la faim se fait par la petite porte du presbytère. Ils sont dirigés vers les hôpitaux militaires Bégin et Percy. Le professeur Schwarzenberg, lui, sera délogé de force, contraint d'attendre ici, tandis que les Parisiens continuent d'affluer à clamer leur solidarité.
J'ai vu passer les enfants dans les cars. Bon, on a quand même les larmes aux yeux quand en voyant ça. Moi, je suis pas fier d'être français.
Nous, on vient d'Ivry-sur-Seine, donc dès qu'on a entendu la radio, on a débarqué ici pour voir s'il y a des choses à faire. On arrive un petit peu tard. Mais...
Très vite, la mobilisation s'organise.
Au même moment, devant l'entrée principale, les sans-papiers sont emmenés un par un vers les bus. Dans le calme, mais non sans appréhension, les familles ont peur d'être séparées. Madjigan Cissé, porte-parole des sans-papiers, refuse de monter sans son mari et son enfant. Quant à Emmanuel Béard, elle est conduite avec d'autres sympathisants vers le commissariat le plus proche. Les 11 bus vont partir les uns après les autres vers le centre de rétention de Vincennes. L'opération aura duré 3 heures.
C'était une archive donc de l'INA, le jour de l'expulsion de l'église Saint-Bernard, donc le 23 août 96, et quelques mois plus tard, des grosses manifestations ont perduré, 150 000 personnes manifestaient contre le projet de loi Debré du nom du ministre de l'Intérieur qui voulait durcir déjà la loi contre l'immigration. En 97, l'année d'après, la défaite électorale de la droite conduit à la régularisation de plusieurs dizaines de milliers de sans-papiers, et en fin 97, 50 000 personnes donc manifestent à Strasbourg contre le congrès du Front National qui va connaître la plus grosse crise de son histoire. Et on sait tous que ce chemin n'est pas allé au bout. Ce qui se présentait alors comme la gauche a repris la logique de la droite, refusant la régularisation globale des sans-papes, puis durcissant la chasse aux sans-papiers, comme elle a repris sa logique libérale aussi de casse sociale. On écoute 4 ans après une deuxième archive.
4 ans après leur évacuation musclée de l'église Saint-Bernard à Paris, les sans-papiers réclament toujours la régularisation de leur situation. Répondant à l'appel de la coordination nationale des sans-papiers et de nombreuses organisations politiques, 550 personnes ont une nouvelle fois défilé dans les rues de Paris. Jeanne Assouli.
Il fut l'un des porte-parole des sans-papiers de l'église Saint-Bernard. Pour Amadi Camara, 4 ans après l'évacuation le 23 août 1996, leur situation reste inchangée. À l'appel de la coordination nationale des sans-papiers, une trentaine d'organisations politiques et syndicales réclament des papiers pour les sans-papiers, l'abrogation des lois Pasqua-Debré et l'abolition des doubles peines.
Jusqu'à présent, on se bat, même si ça dure jusqu'à 10 ans, on est là, on se battrait jusqu'à la régularisation de tous les sans-papiers.
Cette année, l'association n'a obtenu que 7 régularisations. Elle demande au gouvernement une politique d'immigration plus souple et l'arrêt des expulsions, au moment où la France prend la présidence de l'Union européenne.
L'ensemble des pays européens, comme Italie, Espagne, ils ont tous régularisé leurs sans-papiers. Nous ne voyons pas comment la France n'arrive pas à prendre une décision jusqu'à présent, surtout le gouvernement suspect, jusqu'à présent, une régularisation globale de tous les sans-papiers.
La coordination appelle un rassemblement le 23 août prochain devant l'église Saint-Bernard.
Donc ça, c'était 4 ans après l'expulsion. Alors pourquoi on parle de cette expulsion 26 ans plus tard? On pourrait penser que c'est une expulsion parmi tant d'autres. En fait, pas vraiment. Là, on voit qu'il y avait quand même il y avait 1000 keufs qui ont expulsé cette église. Pourquoi? Parce qu'il y avait un soutien énorme en fait de la population et de l'opinion publique en général concernant le sort qui est réservé aux sans-papiers et aux personnes immigrées en France. Et en fait, ça a été un très grand tournant dans la politique migratoire française ces années 95, 96, 97, avec la gauche et la droite qui se lient pour commencer à officialiser une politique d'immigration clairement raciste et clairement assumé, alors que tout le monde chie dans les bottes du FN. En fait, tout le monde fait son jeu en expulsant des églises, mais aussi des foyers, et en expulsant et en instigant aussi un système global d'expulsion en construisant des centres de rétention. Là, on entend dans la première archive le centre de rétention de Vincennes. C'est un des premiers centres de rétention en France qui a été actif et qui a été majeur en fait dans tout le système d'expulsion de la machine à expulser en France. Et ensuite, ces centres de rétention se sont multipliés et la politique migratoire française, la politique contre l'immigration en France s'est renforcée et s'est complètement légalisée, a été législative en fait. Toutes les lois sont passées les unes après les autres. Et donc 26 ans après, on se retrouve avec 89 députés fascistes à l'Assemblée nationale, des inégalités qui ont augmenté et un pouvoir qui continue la surenchère raciste et sécuritaire, étrangers délinquants, double peine, expulsion d'imams, Darmanin qui construit l'autoroute du fascisme. Le communiqué de la marche de demain nous dit que face à cela, il faut reprendre le chemin de Saint-Bernard, donc cette église qui a été expulsée, le chemin de la lutte, puisqu'en fait, Saint-Bernard, ça symbolisait aussi une énorme lutte qui s'est déroulée sur plusieurs mois, impliquant des milliers de personnes et des dizaines, voire des centaines de milliers de soutiens. Donc le chemin de la lutte pour l'égalité et pour la liberté, non à la double peine, justice pour toutes et tous, fermeture des centres de rétention, liberté pour toutes et tous, régularisation de toutes et tous les sans-papiers, égalité pour tous, français, immigrés, solidarité, même patron, même combat. Le rendez-vous est donné demain, samedi 20 août 2022 à Paris à 15h, porte de Clignancourt. On continue ces infos après une petite pause musicale. Il est midi 51. Vous écoutez bien Radio Galère sur le 88.4 ou Aioli Radio en Avignon. Bonne écoute. On écoute Poupi avec Thelma et Louise.
Ça fait plus d'un an que je vois leur nom, que je dois m'y plaire. Ça fait quoi de toi? A fait les terres. Le seul vrai dégât si ma soucoupe touche la terre. Comme Louise et Thelma, je veux prendre la route, seulement revenir si ça manque tellement. Je veux qu'on regarde, je veux qu'on écoute jusqu'à l'enterrement. Ah, ah, ah. Cette vie c'est moi. Ah, ah, ah. Je rachèterai ton terrain, j'en ferai un tableau. Quand j'emmènerai tout le monde, ils viendront au
Et on reprend l'antenne avec toujours sur le thème des sans-papiers et des centres de rétention, puisque au centre de rétention de Marseille, au Canet, la situation sanitaire est catastrophique. Entre la tuberculose et le Covid, le manque de clim et d'eau fraîche, les prisonniers sont à bout et font la grève de la faim, les autorités s'en foutent. Et donc les prisonniers des bâtiments 1C et 0C s'organisent et donc font la grève de la faim avec comme revendication leur libération. Et donc le collectif Anticra Marseille, en collaboration disons avec Mars Info, publie deux témoignages de prisonniers d'un des deux bâtiments qui est en grève. Témoignage de R. On a un cas de Covid, il a 42 fièvres. Il vomit, il s'arrête pas de vomir, ça fait 3-4 jours qu'on les appelle. Il y en a un autre qu'ils ont envoyé à l'hôpital. Ils l'ont envoyé à l'hôpital parce qu'il avait des symptômes, je sais pas de quoi. Ils veulent pas nous dire. Ce matin encore, il y en avait un qui avait le Covid, ils l'ont fait sortir, je sais pas où ils l'ont envoyé. Plus la tuberculose. On est confinés, ils nous confinent encore, ils veulent nous enlever les parloirs. Tout le monde est malade, mais ils veulent pas nous faire sortir. On n'a pas la clim, ça fait depuis une semaine qu'on leur demande. En bas, ils ont la clim, en haut, ils ont la clim, nous, rien, ça fait une semaine. Ils nous ont dit, vous avez jusqu'à mardi, mais mardi, c'est loin, on a passé déjà la journée d'hier, d'aujourd'hui et de demain, et on leur a demandé au moins de l'eau fraîche. L'eau est tellement chaude, en fait, au robinet, qu'on ne peut pas la boire. Alors on fait le compte, 14-15 bouteilles, mais dans la soirée, dans la nuit, moi je bois aussi, j'ai soif et on a besoin d'eau, on n'a pas d'eau. Ça veut dire démerdez-vous. Il y a des cas de tuberculose, ils nous ont dit qu'on est tous indemnes, mais il y en a qui sont malades et on ne sait même pas ce qu'ils ont. Hier, on avait appelé les pompiers hier, ils n'ont pas voulu venir. Ils ont dit non, vous êtes en centre de rétention, appelez la police. Parce que nous, on appelle la police et ils ne veulent pas nous répondre. Les pompiers ont appelé la police, ils sont montés, après ils ont vu que c'était sérieux. Donc il y en a un qui a été envoyé à l'hôpital et un qu'ils ont laissé. Et là, il est malade, il n'en peut plus, il est allongé sur son lit, il est en train de trembler, il n'arrive pas à marcher, il n'a même pas mangé ce midi, il a des courbatures, je ne sais pas quoi faire, il n'a pas de goût, il a mal partout. Et donc la personne qui l'interview demande s'il y a des médecins qui sont venus. Et donc la personne qui témoigne répète, non, c'est les pompiers qu'ils ont appelés le matin. Les pompiers ont appelé le centre de rétention et le centre de rétention leur a répondu qu'ils pouvaient monter. Donc les pompiers sont montés, ils ont constaté que c'était vrai. Et donc il y a une personne qui est allongée par terre et un autre plus loin. Et donc celui d'hier, ils l'ont mis à l'hôpital et celui de ce matin, ils l'ont convoqué. On ne sait même pas s'ils l'ont fait sortir, s'ils l'ont confiné, on ne sait rien. On attend. La tuberculose, le mec, il est sorti, ils n'ont pas nettoyé la chambre. Ça fait que le mec qui est dans la chambre, on pense qu'il a attrapé la tuberculose aussi. Et après, ils disent oui, mais on était occupés, on avait d'autres choses à faire. Et pour la clim, ce matin, on est sorti chercher des traitements, et eux, ils ont la clim. Et nous, on n'a pas la clim, c'est un truc bizarre. On a dit, comment vous avez la clim ? Non, mais c'est une clim à part, mais s'il y a la clim, il y a la clim pour tout le monde. Il fait tellement chaud qu'on ne sait même plus quoi faire. C'est des menteurs, j'ai jamais vu une justice aussi menteuse qu'eux. Là, il n'y a même pas de justice. C'est mensonge sur mensonge sur mensonge. C'est un truc de fou, j'ai jamais vu ça. On n'existe pas, ils ne nous calculent pas. Il y a 4 mois en arrière, j'étais en bas, on était bien, et là j'arrive, corona, tuberculose, syphilis. Il y a tellement de maladies qu'on ne sait même plus quoi. On se croirait dans l'ancien temps, le temps d'avant, de la peste et du choléra. Ils ne servent à rien, ils ne savent même pas quels symptômes on a, quelle maladie on a. Qu'est-ce que j'ai fait pour être là ? J'ai fait ma peine, j'ai payé ma dette. Pourquoi je suis là ? Parce que j'ai refusé l'avion pour aller en Algérie ? Ça fait 50 ans que je suis en France. Un autre témoignage donc, qui a été récolté il y a quelques jours au centre de rétention du Canet par le collectif Anticra Marseille. C'est la catastrophe là, ils n'ont pas désinfecté la chambre et chaque jour il y en a un qui tombe. Ils nous ont fait le test pour la tuberculose, ils n'ont rien trouvé, mais chaque jour il y en a un qui tombe. Je sais pas, je comprends pas, hier il y en avait déjà 2. La personne intervieweuse, il n'y a pas de test positif, c'est ça ? Oui, c'est ça, je te dis oui. Après, je ne sais pas, peut-être que ça ne sort pas directement sur le scanner ou sur le test qu'ils nous ont fait. On ne sait pas si c'est le Covid ou la tuberculose. Hier, on a testé la température, ils ont trouvé 40 degrés. Le pompier, il a dit, il n'y a rien. Et après, le lendemain, ils l'ont convoqué, ils ont pris ses affaires, je ne sais pas où il est exactement, même son téléphone est éteint. La personne intervieweuse, vous êtes en contact avec les autres bâtiments ? Oui, on est en contact, mais je pense qu'il n'y a rien. Il n'y a que dans notre bloc, le bloc 1C. Là, on est confiné encore, on ne sait même pas c'est quoi exactement. Mon collègue, il a un appel à la loi, normalement à Aix, et là, ils sont en train de le juger par téléphone. Les jugements se font par téléphone, oui. C'est critique, là, la situation. C'est pas normal, je suis inquiet. Vous imaginez même pas ce qu'on vit. On est dans une cage, vraiment une cage avec des grilles, des barbelés. Et donc ça, c'était des témoignages recueillis par le collectif Anticra de Marseille. Vous pouvez aller checker sur leur site, vous tapez Anticra Marseille sur internet et vous allez tomber sur ces témoignages. D'ailleurs, il y a une vidéo aussi d'une minute où on voit l'intérieur du centre de rétention. Ça fait froid dans le dos. Donc soutien à toutes les personnes enfermées, bas au CRA, feu au CRA, liberté pour toutes et tous. Marseille Anticra, c'est Marseille Anticra, tout attaché, .noblog.org. Les CRA, pour celles et ceux qui ne sont pas au courant, c'est les centres de rétention administrative, les prisons dans lesquelles sont enfermées les personnes en instance d'expulsion, mais de plus en plus de façon punitive, purement et simplement. On arrive à la fin de cette émission. Petit rappel, le festival Parole de Galère 2022, c'est dans quelques jours, à partir du 29 août, une semaine spéciale sur les ondes avec des matinales de 8h à 10h. En début d'après-midi, des plongeons dans les archives de la radio, donc de 14h à 15h toute la semaine du 29 août. Et de 16h à 17h, des plateaux hip-hop live avec des freestyles des artistes qui viendront rapper, chanter dans une émission de grande envergure quotidienne de 16h à 17h. Et pour conclure la semaine en beauté, une journée et une soirée Parole de Galère le 3 septembre à la friche de la Belle de Mai. Je vais essayer de mettre un petit tapis là pour finir l'émission. Donc, comme je disais, le 3 septembre, festivité le 3 septembre à la friche de la Belle de Mai à partir de 11h, entrée en prix libre en soutien à Radio Galère. des espaces de débat, des émissions en extérieur de 11h à 12h30, le plateau du Sénégal, émission politique et culturelle sur le Sénégal, animé par Lamine et Richard en direct et en public. De 12h30 à 13h, un magazine d'infos animé par Étienne et Eric. Et puis ensuite, des débats retransmis en direct et en public. 14h, 15h30, et si on causait séparatisme social ? Les grands médias mensonges fascinent l'opinion publique à propos des quartiers populaires et de leurs habitantes et habitants issus ou non de l'immigration post-coloniale. On en parlera donc ce samedi 3 septembre en direct et en public à partir de 14h. Et puis à partir de 16h, les peuples d'Afrique à l'assaut du ciel. Un titre, un brin provocateur qui n'est pas une fiction. À un certain moment de l'histoire du continent, une réalité palpable, les indépendances acquises au prix des luttes armées ou pacifiquement acquises en raison d'un rapport de force favorable sur... Je vais pas vous lire tout le texte parce que c'est trop long et qu'on est en retard, mais c'est un débat, les peuples d'Afrique à l'assaut du ciel de 16h à 17h. Et puis ensuite, grande soirée, un pass Seita avec de la fanfare, des batucada, des déambulations et même des spectacles de marionnettes, des projections de courts et de longs métrages. Et puis ensuite une scène en extérieur avec des concerts, Shiny Iris, Pop Urbaine Afro-Tropical, Jacques Dish, Connexion, Trio Acoustique et Balletti Bal Populaire en acoustique et du Sega Marseillais. Tout ça, ce sera le 3 septembre 2022 pour les 40 ans de Radio Galère. Festival Parole de Galère. Voilà le programme que vous retrouverez sur radiogalère.org. On se quitte. Bonne journée à toutes et à tous. Dans quelques secondes, minutes, l'agenda alternatif avec Mélo qui nous fait revivre les meilleures sorties de 2021-2022, je crois. Bah écoutez ça, ce sera à partir de 13h03, juste après ce jingle. Ciao.